Alors, ma vie, elle a commencé, donc j'ai 61 ans maintenant, et ma vie, elle a commencé dans des moments difficiles, dans la souffrance, puisque, vous l'avez vu, j'ai eu la polio très jeune, et puis aussi le deuil de mon père, qui était officier de marine, qui est mort en Algérie, et mais du côté maternel, ils étaient aussi pieds noirs, et donc tous ces événements ensemble, entre 61 et c'est aux alentours 61-62, se sont cumulés. Et du coup, je trouve que ça a donné à ma vie une couleur assez particulière, le fait que, non seulement à cause des deuils, mais de cet arrachement de l'Algérie que je n'ai pas connu, et mon père, je ne l'ai pas connu non plus, je n'ai pas de souvenir, j'avais un an et demi, et mais aussi la polio, les opérations, les hôpitaux, etc. Je trouve que ça façonne déjà le cœur, vous voyez, ça façonne le cœur dans le sens où ça ouvre aussi le cœur, ça ouvre le cœur à quelque chose d'autre. Et du coup, si ces moments n'ont peut-être pas été faciles à vivre personnellement, mais c'est aussi l'action de grâce pour tous ceux qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenus comme famille à ce moment-là. Je pense par exemple à mon oncle Alain, ma tante Agnès, voilà, qui n'a pas pu venir à cause de l'âge, etc. Donc qui ont été vraiment, des personnes qui ont été des relais, vous savez, de figures paternelles, ont pris soin de notre famille, qui est une famille bousculée. Et puis du coup, je pense, ensuite maman s'est remariée avec monsieur Letty, qui était veuf lui-même et avait trois enfants. Et donc, je rends grâce aussi pour Pierre, mon beau-père, qui est maintenant décédé en 2013. Et je trouve qu'il a donné vraiment, en tout cas, il m'a donné l'attention. Et j'étais considéré comme un fils, vous voyez. J'ai été, autant parfois on dit les familles recomposées, ce qui est mon cas, parce que ces deux familles, à cause des veuvages, eh bien, se sont retrouvées. Mais ça a été un moment, je trouve, et une personne qui a beaucoup compté et qui a été aussi témoin à sa manière d'une affection, d'une tendresse. Et alors je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est très beau de faire mémoire de ces débuts de vie agités, bousculés. Mais la présence de personnes, je pense évidemment à ma grand-mère maintenant décédée, qui avait une grande affection pour moi et qui elle a attendu, on peut dire, de mourir. Elle est morte devant moi, et ma sœur Florence, qui est au premier rang aussi, s'en souvient. J'avais eu la permission, alors que j'étais au noviciat, elle était à toute extrémité, et j'avais eu la permission d'aller la visiter. Et je suis rentré, je me rappelle très bien, je me suis rentré dans la chambre, etc., et son regard s'est comme illuminé, et voilà, et quelques heures après, ou le lendemain, je me souviens plus, elle est décédée, quoi. Comme si elle avait voulu attendre ce moment-là, on le connaît bien dans les personnes âgées, les personnes malades qui parfois attendent des rencontres. Donc c'est grâce aussi à tous ces visages dans mon enfance, dans ma jeunesse, qui m'ont façonné et qui m'ont fait avoir confiance. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me caractérise, c'est cette question de la confiance. J'en ai parlé dans l'homélie, mais c'est à mon avis capital, et c'est ce qui est souvent assez attaqué d'une certaine manière, la confiance, hein. Mais la confiance qui vient de l'amour, qui vient du fait que on a été soutenu, j'ai été soutenu à des moments difficiles de ma vie et je n'ai pas été seul. Et puis la présence du Seigneur, de la Vierge Marie, qui à ces moments-là, à tâtons, parce que je ne mettais pas forcément les mots, vous savez, quand vous êtes ensemble, bon, bien sûr, je suis de famille catholique, de paroisse, voilà, mais il n'y avait pas, dans ma jeunesse, il n'y avait pas, je trouve qu'il y a beaucoup plus maintenant, dans les jeunes familles, de propositions, vous voyez, pour les retraites, etc. Il n'y avait pas tout ça, hein, dans ma jeunesse, donc du coup, on était en lien avec la paroisse. Mais vous voyez, par exemple, j'ai toujours pratiqué, alors que sans vendre la mèche, mais mes frères et sœurs avaient quelque chose, une pratique plus légère, on va dire ça comme ça. Mais du coup, mais moi non. Et je pense que ça a à voir aussi avec ce contact avec la souffrance jeune qui a façonné mon cœur et qui, quelque part, m'a donné l'importance. Qu'est-ce qui est important, vous voyez? Qu'est-ce qui est comme une forme de gravité? Alors, ça n'a pas que des avantages, hein, parce qu'il manque la légèreté, hein, mais la légèreté, vous ne l'avez pas forcément quand vous passez par les épreuves, surtout jeunes, vous fréquentez pendant des années les hôpitaux, etc. Vous n'avez pas forcément la légèreté au rendez-vous, mais toujours la gravité, le dire, voilà, s'il y a quelque chose qui compte, c'est la présence de Dieu. Donc ensuite, je passe toutes mes étapes de vie, etc. Un moment très sympathique aussi, c'est quand j'étais à Dijon, parce que mon beau-père, donc agent général d'assurance, avait acheté une agence à Dijon, et donc du coup, de 74 à 84, je suis resté à Dijon. Et puis, j'ai fait subdeco là-bas, licence en sciences éco, et puis des amis que j'ai pu connaître, dont certains sont ici aussi, de cette étape de Dijon, qui a été un moment, en tout cas, dont je garde un très bon souvenir, beaucoup d'amitié, beaucoup de très entouré, très... alors, ce n'est pas forcément des souvenirs religieux. Je me souviens, pour la petite histoire, de notre aumônier, dans l'aumônerie, on avait un aumônier, mais c'est les années, vous voyez, c'est post, c'est 70, etc. Et donc, pour faire bien, pour faire proche des jeunes, il s'appelait Maurice, le père de Launay. Donc Maurice, il dit, bah, écoute, entre nous, tu m'appelles Momo, comme ça... Bon, d'accord, maintenant on le ferait pas, je pense que tu m'appelles Bobo, voilà, mais c'était tout je me souviens de l'abbé Gagé aussi, qui était un homme qui lui a aussi attiré beaucoup les jeunes et a formé aussi toute une génération, mais une proximité de prêtres. Mais c'est vrai, par exemple, je ne me souviens pas du tout de mon catéchisme, alors ça peut en rassurer certains d'entre vous. Je ne me souviens pas un peu de l'aumônerie que j'avais au lycée. On a été à Paris au lycée Carnot. J'ai beaucoup fréquenté des établissements publics. J'étais très heureux de cette fréquentation parce que c'est assez divers, forcément, par définition. Et puis, mais bon, au niveau spirituel, je pense que ça a été comme. Il y avait comme une pierre d'attente. Une pierre d'attente pendant des années, mais. Pas forcément quelque chose qui émergeait, une pratique religieuse, mais pas forcément de vie de prière personnelle. Vous voyez, pas de confession non plus. Bon, pas d'accompagnement spirituel. Tout le monde n'a pas d'accompagnement spirituel, mais en tout cas, d'une vie, pas de retraite spirituelle. Une vie, j'allais dire, de paroissien habituel, jeune, avec d'autres jeunes qui aussi ont se retrouvé, je me souviens très bien, à Saint-Bénigne, à Dijon, après des soirées, etc. C'était le lieu de rencontre. Maintenant, la messe des jeunes, c'était le dimanche matin. Maintenant, c'est le dimanche soir, parce que, visiblement, ils ont plus du mal à se remettre de leurs émotions. Mais toujours est-il que ça a été quelque chose de très, très beau de ce moment à Dijon, de familial, d'insertion, 10 ans, ça faisait longtemps qu'on n'était pas resté 10 ans dans la même ville, donc arraché d'Algérie, ensuite à Toulon, ensuite, moi j'ai un temps été confié à ma grand-mère paternelle dans le sud-ouest, donc ensuite, bon, il y a eu des avec mon beau-père, par son travail, différents lieux, Saint-Brieuc, Paris, et puis Dijon pendant 10 ans. Et puis après, donc mes études supérieures, première fois, je suis parti donc en 84, j'ai commencé ma vie professionnelle dans un cabinet d'audit qui depuis a mal tourné puisqu'il s'appelle Arthur Andersen, donc c'est-à-dire qui a signé des faux comptes. Ça reste pour ceux qui sont de la profession, qui reste quelque chose de très connu. Voilà, ça a valu une dégringolade de ce cabinet, un cabinet américain qui forme très bien. Et du coup, j'ai gardé cette expérience professionnelle. Je m'orientais plutôt vers l'expertise comptable, ou j'avais plutôt choisi ça comme. Et du coup, c'est très formateur. L'expérience que l'entreprise. J'ai une grande affection pour le monde de l'entreprise. J'ai une grande affection pour le monde de l'entreprise parce que c'est un monde humain, je veux dire, de rencontres d'hommes et de femmes, de rencontres parfois paisibles, de rencontres parfois conflictuelles. Et donc, mais ce monde de l'entreprise, en tout cas, me passionne, et c'est souvent que je lis ou je donne des enseignements aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, parce que je crois que c'est un monde où, comme disciples de Jésus que nous sommes, nous avons quelque chose à dire. Et nous sommes plutôt, j'allais dire, bien armés pour vivre ce monde de l'entreprise, qui est un monde où on dit oui, mais c'est pas, parfois on dit mais c'est pas un monde facile pour les catholiques, pour ceci. Vous savez, qu'est-ce qui est un monde facile? Est-ce que l'Empire romain était plus facile pour les catholiques? J'en suis pas sûr, vous voyez. Donc est-ce que, je trouve, voilà, j'aime bien cette phrase de saint Augustin qui dit soyez bons et les temps seront bons, soyez saints et les temps seront saints. C'est-à-dire que, voilà, ce monde de l'entreprise, il est ce qu'il est, avec ses tensions, et peut-être plus encore en ce moment, où il y a des tensions qui sont encore plus palpables. Mais nous aussi, nous avons une manière de traverser le conflit qui est différente, et un regard sur le conflit. Mais il n'y a pas que le conflit, il y a aussi des lieux d'entraide, il y a des lieux de... Voilà, donc ça a été quelque chose qui... Et donc ça a été à Lyon que j'ai commencé cette vie professionnelle, et que j'ai terminé aussi. Et à Lyon, je veux souligner quelque chose qui a été vraiment important pour moi et qui était un déclencheur, c'est la rencontre d'amis qui vivaient très profondément, plus jeunes que moi, qui vivaient, j'avais quoi, 24, 25 ans, quelque chose comme ça, qui vivaient leur foi de façon très profonde. Et du coup, l'importance pour des jeunes, et pour des moins jeunes aussi, de témoins, de personnes... notre chère Isabelle est là dans la salle, etc., elle s'en souvient, qui priait, qui faisait oraison, qui avait un accompagnement spirituel, qui se confessait, toutes choses pour moi qui étaient nouvelles, je ne connaissais pas, je n'avais pas dans mon entourage immédiat des personnes qui avaient à ce point-là une implication religieuse. Et du coup, j'étais assez intéressé, d'autant plus c'était des jeunes filles ravissantes. Et donc, du coup, voilà, ça a été quelque chose qui progressivement s'est mis en place. Et je me souviens très bien, une fois, dans ce groupe d'amis, on s'est dit, voilà, il faut absolument que tu participes à une retraite, que tu fasses une retraite. C'était un peu chargé de ma vie spirituelle, d'une certaine manière, et avec une grande joie. Et donc, du coup, faut que tu fasses une retraite spirituelle. Très bien. Du coup, elle m'avait inscrit. Elle m'avait inscrit aussi parce que j'avais une voiture et qu'elle n'en avait pas. Donc, du coup, les motivations étaient diverses. Vous voyez, comme quoi les chemins du Seigneur sont impénétrables. Donc, du coup, elle m'avait inscrit, etc., à cette retraite spirituelle à côté de Paris, à Bois-le-Roi. Et là, ça a été vraiment un avant et un après. Si vous voulez, ça a été vraiment un avant et un après, avec un prédicateur très charismatique, etc., qui parlait beaucoup aux jeunes, qui était très en vogue à l'époque, etc. Bon, et du coup, je trouve que ça m'a vraiment ouvert le cœur. Je me suis confessé. Et j'ai découvert ce qu'était cette pierre d'attente qui était là, présente depuis plusieurs années. Eh bien, elle a trouvé d'une certaine manière son expression, et elle a trouvé comment aboutir et s'épanouir et être aussi une pierre de construction avec cette retraite. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a ouvert le cœur, qui m'a touché. Voilà, c'est d'où l'importance de la prédication aussi, la prédication, parce que j'en ai bénéficié, j'ai bénéficié de la prédication d'autres. Je me dis, c'est très important cette question de prédication qui peut, hein, la foi vient par la parole aussi, hein, c'est donc. Du coup, de retour à Lyon où je travaillais, etc., du coup, j'ai commencé à prendre un accompagnateur spirituel, un dominicain que certains peut-être connaissent, le père Jean-Miguel Garrigue. Le père Garrigue, dont je fais mémoire aussi, ce prêtre-là. Je fais mémoire aussi de prêtre, de frère de Saint-Jean. Dans cette époque-là, il y avait toute une... Peut-être aussi le cas, mais... Je veux dire, les jeunes de bonne famille rentraient à Saint-Jean, voilà, la commune, la fraternité Saint-Jean, etc. Donc, et du coup, je me rappelle être à un camp, etc. Bon. Et puis progressivement, est arrivé dans mon cœur, je veux dire, parfois la messe en semaine, vous voyez, vraiment une vie spirituelle beaucoup plus soutenue qu'un paroissien, j'allais dire, habituel. Et puis, du coup, à un moment donné, dans cet accompagnement spirituel, je me rappelle très bien avoir dit au père Jean-Miguel Garrigue, écoutez, il me semble être appelé à la vie religieuse. Alors, pourquoi la vie religieuse? et non pas la vie de prêtre de paroisse. Alors, plusieurs choses à ça. Premièrement, après cette conversion, on peut dire, après la retraite, j'avais surtout rencontré des religieux. Lui, dominicain, qui était religieux, des frères de Saint-Jean, etc. Et puis, je me disais, même si, vous savez, moi, j'y connaissais rien, je veux dire, au niveau de l'Église, les paroisses, comment ça se structurait, les charismes, je ne connaissais strictement rien. Voilà, je n'étais pas un pro, si vous voulez. J'étais pas. Et donc, du coup, mais je me suis dit, tiens, la vie religieuse, c'est intéressant. On n'est pas seul. Et en même temps, je ne me voyais pas non plus dans une vie monastique, donc sans dimension de contact avec l'extérieur, missionnaire. Et je ne me voyais pas non plus dans une vie de paroisse, hein, de prêtre de paroisse. Ces deux vocations sont admirables, mais qui est donc une vocation plus solitaire, forcément. Et donc, voilà, la vie religieuse, il me semble... Alors, du coup, c'est là où il y a une providence absolument extraordinaire. Écoutez... Alors du coup, je me suis dit, il faut que je rentre, je vais peut-être rentrer chez les frères de Saint-Jean, c'était les frères que je connaissais. Je me suis dit, non, rentrez pas chez les frères, surtout pas, bon, vous le répéterez pas, hein, ça ne sortira pas du département. Donc du coup, surtout pas, les... bon, bref, il avait certainement ses raisons. Bon, l'avenir ensuite a montré des difficultés, mais bon, toujours est-il que, moi, je ne connaissais rien, moi. Donc, il me dit, écoutez, là, il y a un frère qui est passé, il m'a laissé une règle de vie. Ça m'a fait bonne impression, cette communauté. Ah bon, mais je lui dis, mais écoutez, regardez, lisez, vous. Et donc, c'était la règle de vie des serviteurs de Jésus et de Marie. Et en lisant la règle de vie, je veux dire, c'est quand même, faut le faire, c'est quand même pas Harry Potter, vous voyez, c'est une règle de vie, c'est quand même assez austère. Je veux dire, c'est pas un roman fleuve, c'est pas un polar. Donc, du coup... Mais en lisant la règle de vie, il y a une sorte d'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, je mets ces mots-là. Et la certitude, sans y être venu, que c'était ici. Que mon appel était ici. La certitude, avec à la fois des larmes, à la fois une grande joie, à la fois vraiment une certitude intérieure que j'étais appelé ici. Alors, je retourne voir notre cher père Jean-Miguel Garrigue, etc. Je dis, je vais rentrer là. Il me dit, mais est-ce que vous y êtes allé? Je dis non, je suis pas. Faut peut-être bien d'y aller, parce que j'étais tout feu, tout flamme, vous savez, j'imagine quand on débute une relation amoureuse, c'est un peu comme ça. Et donc, du coup, est-ce que vous y êtes allé? Donc, du coup, je viens faire ici un stage en communauté, comme c'est l'habitude. Et la communauté était bien plus petite, il n'y avait qu'une seule maison. C'est les années 85, 86. Je viens faire des visites, etc. Ils étaient peut-être une petite dizaine de frères. Il y a des frères qui étaient aux études aussi, qui étaient à Rome. Bon, mais bon, je me dis, c'est des hommes. Il y a plusieurs choses qui m'ont attiré dans la communauté et continuent de m'attirer. Premièrement, la fidélité au Saint-Père. La fidélité au Saint-Père. Donc à cette époque-là, c'était le pape Jean-Paul II. Non pas que les autres communautés, ce que je dis dans ma communauté, c'est-à-dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas c'était affirmé très clairement. Et le père Lamy, notre fondateur, donc qui a fondé la communauté en 1930, a insisté sur l'enracinement dans l'Église. Ensuite, une autre chose qui m'a attiré, le port de l'habit, je me dis, c'est important aussi, cette visibilité, etc. J'aurais pas été dans beaucoup d'autres communautés où on porte l'habit qu'au moment des offices, où on porte pas du tout l'habit. Bon, voilà, c'est assez variable selon les communautés. Et puis, ensuite, ce qui m'a attiré, c'est cette mission auprès des jeunes. Et puis, cette dimension, j'allais dire, mixte de vie de prière et de vie... de vie de prière, vie fraternelle, le côté plus monastique d'une certaine manière, et de vie de mission auprès des jeunes. Et du coup, ce côté mixte, ce qu'on appelle les conventuels, après, je connaissais rien, moi, on appelle ça des conventuels. Comme ça, vous avez les franciscains, les dominicains, vous avez tous les religieux. On fait la différence un peu technique, mais nous ne sommes pas des moines. Les moines n'ont pas, en tout cas en France, d'apostolat extérieur. Nous sommes des religieux avec une vie fraternelle de prière et une vie apostolique. Et donc, du coup, cette dimension-là, je trouve vraiment intéressante. Et puis, spirituellement, ces deux enracinements, à la fois eucharistique, c'est-à-dire l'amour de l'Eucharistie, le sérieux. C'était une petite communauté, mais on sentait du sérieux dans la manière de célébrer. Vous avez vu dans la manière de célébrer l'Eucharistie combien nous attachons d'importance à la qualité de nos célébrations. Et moi, je suis rentré en 87, donc ça fait 33 ans. Et 33 ans après, c'est toujours en rendez-vous. Et puis, ensuite, la qualité de nos... Et puis, la dimension mariale de la Vierge Marie que j'avais rencontrée, je vous ai dit, au début de ma vie, une présence maternelle de Marie dans les moments d'épreuve. Et donc, du coup, voilà, je suis rentré. Et alors, c'est assez étonnant parce que mon moment le plus fort, parce qu'on dit, mais est-ce que votre ordination... Ça n'a pas été mon moment le plus fort. On risque de vous décevoir. Ça n'a pas été le moment le plus fort. Mon moment le plus fort... Ça a été quand je suis arrivé ici, quand j'ai rendu mon appartement, j'ai écrit ma lettre de démission, je suis arrivé avec ma petite R5 jaune, j'arrive avec, il y a un avant et un après. Ça a été vraiment ce moment, et le 14 août, la veille du 15 août, donc c'est les premières vêpres, donc avec la très belle liturgie, c'est la liturgie de Gousse que les pères là à Lyon, le père Garrigue, il était en communauté, il chantait aussi cette liturgie. Donc du coup, c'était un moment très fort, très très émouvant, plein de d'émotions, de d'actions de grâce, etc. Ensuite, évidemment, la présence du père André et du père Jean, pour ceux qui les ont connus. Vraiment, peut-être plus du père Jean, qui est un homme très marial, qui a été mon père maître, un saint homme de Dieu, vraiment, qui a été mon père maître des novices, etc. Et vraiment, j'ai beaucoup appris avec lui. Vraiment, je me confie beaucoup à sa prière. Mais on voyait des hommes, je pense que quand je suis rentré, il devait avoir à peu près, je sais pas quel âge j'avais, 50 ans, 55, je ne sais pas quel âge ils avaient. Mais en 87, ils avaient une cinquantaine ou soixantaine d'années. Mais du coup, on sentait des hommes, si vous voulez, enracinés dans l'Église. On sentait des hommes enracinés dans la prière et dans leur vocation. Et ça, c'est quand même très important pour attirer les vocations que d'avoir des personnes, on sent qu'ils sont des références. Surtout dans ce poste des années 60, début des années 80, c'était pas encore la génération Jean-Paul II, si vous voulez. Ça a été bien après. Donc du coup, je trouve que c'était vraiment intéressant. Et du coup, il y avait tout un mouvement autour de la qualité des célébrations attirées, ce qui générait quelques jalousies de curés voisins, par exemple. Mais ensuite, on sentait au niveau spirituel, le père André avec des cercles spirituels. Si vous voulez, les débuts des mouvements, les mouvements charismatiques dans les années 80 qui ont pris une ampleur. Bon, du coup... On sent vraiment quelque chose de très très beau que la communauté vivait petitement. Encore une fois, c'est une dizaine, peut-être 14 frères en tout. Bon, je me rappelle plus bien, mais on n'est peut-être pas très très nombreux. Hein. La communauté, moi, je n'ai pas connu cette période-là, mais dans les années 60, ils étaient 5. Vous voyez, donc dans des grandes bâtisses comme ça. Bon. Et donc voilà. Donc ensuite, le noviciat. Et ensuite, la philosophie. Et je m'arrête un peu sur la philosophie, parce que vous savez, j'avais l'appel au sacerdoce, en plus de la vie religieuse. Vous pouvez avoir l'appel à vous consacrer, sans pour autant, sentir l'appel à donner les sacrements, qui est le sacerdoce. Et donc, du coup, pour être prêtre, il faut se former. Donc, il y a 3 ans de philosophie, 4 ans de théologie. Et ces 3 ans de philosophie m'ont beaucoup marqué. J'ai fait ma philosophie à l'IPC, peut-être certains connaissent, l'Institut de philosophie comparée à Paris. Et en même temps, en parallèle, on avait le lien avec la Sorbonne, il y avait des équivalences. Et donc, du coup, ça a été quelque chose de très, très beau de découvrir la philosophie. Moi, j'étais dans l'école de commerce, j'ai été dans ces dimensions-là, tout à fait loin de la philosophie. Mais là, ça a été une vraie aussi révélation et quelque chose qui me travaille encore maintenant. La philosophie à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, et encore une fois, je travaille encore plusieurs années après, près de 30 ans après, 25 ans après, je travaille encore là-dessus sur la philosophie, parce que ça a éclairé, ça m'a donné au niveau intellectuel, ça m'a donné une vraie structure, vous voyez, intellectuelle, une manière d'aborder les choses, une manière de penser les choses, ça m'a, et qui se ressent, en tout cas maintenant, c'est quelque chose qui est clairement assumé. Donc la philosophie, j'avais fait connaissance d'une des profs avec laquelle j'avais beaucoup accroché, mademoiselle Lisotte, une dame qui a maintenant peut-être 85 ans, un peu plus, et vous verrez pourquoi c'est important pour la suite. Et donc ensuite, 3 ans de philosophie, et ensuite, je suis appelé par mon supérieur, qui avait la fondation des Poincœurs à ce moment-là, dans les tout débuts, en 91. J'étais très enthousiaste avec ça. Et mon supérieur de l'époque me dit, mais écoutez, vous pouvez, tu peux partir, aller en Argentine pour accompagner les jeunes. Il y a des vocations, tu peux accompagner. Bon, on commence à aller là-bas. Et puis finalement, plus qu'une vocation, on fonde la communauté. Donc j'étais amené à fonder la congrégation là-bas. J'y suis resté 10 ans en Argentine. Et ça a été 10 ans vraiment extraordinaires. Vraiment, je veux dire, faire une fondation, c'est un privilège. Fonder dans un pays comme l'Argentine, mais j'imagine dans d'autres pays, même des fondations en Europe, en France, etc., vous arrivez, personne ne vous connaît, et puis vous établissez votre lieu, vous dites, bon... Et du coup, bon, ça a été un accueil extraordinaire de la part des Argentins et de toutes ces... Et donc, j'ai fait mes études de théologie là-bas. C'est vrai que ça m'a moins marqué. Il a fallu que j'apprenne l'espagnol, je connaissais pas. Alors que Christ, c'est Christo, alors ça va. Terre, c'est Tierra, ça va. Marie, c'est Maria, c'est bon. Donc du coup, vous pouvez faire de la théologie à peu près tout ce que vous voulez en théologie. Vous pouvez le faire avec c'est les bases. C'est Jésus, Marie, la base. Et donc du coup, j'ai fait ça pendant 4 ans avec des séminaristes. J'étais au séminaire, je logeais au séminaire jusqu'à la fondation de la communauté. Et donc c'est aussi des très bons souvenirs avec les séminaristes, etc. C'est une manière de vivre la foi très différente de la France. En France, on est assez cérébral, si vous voulez. On n'est pas là-bas. Il y a un côté la foi catholique. Tout le monde est catholique. Ce qui m'avait beaucoup marqué, par exemple, quand vous arrivez, c'est que vous passez devant une église, vous êtes dans le bus, signe de la croix. Tout le monde se fait le signe de la croix alors que vous êtes dans le bus. Puis personne ne dit rien. Alors ici, on se dirait, mais attention, la laïcité, etc. Donc, vous avez des queues aux confessionnaux. Par exemple, les gens attendent leur tour pour se confesser, parce qu'il y a trop de monde. Des choses comme ça qui sont... Il y a un côté, si vous voulez, naturel en Argentine, un côté affectif, un côté... C'est l'Amérique latine, c'est des latins, évidemment. Nous aussi, on est des latins, mais je trouve qu'il y a un rapport à l'Église. Il y a un côté aussi plus clérical, que le pape François dénonce, c'est pas pour rien. Le prêtre, en tout cas, quand je suis arrivé en 91, le prêtre avait un statut, je me rappelle très bien, à Oro Verde, au nord de Buenos Aires, à 600 kilomètres au nord de Buenos Aires, j'étais à côté du maire. Dès qu'il y avait une inauguration, le maire m'invitait et me demandait de bénir le logement ou parfois les différentes machines qui avaient été acquises par la mairie. On demande au prêtre de les bénir. Vous voyez, donc il y a quand même, c'est très très loin de ce que nous on peut vivre. Et en même temps, voilà, une présence donc assez cléricale. On compte beaucoup le prêtre a un statut, le prêtre a ce qui est ici est très différent. Donc, mais une grande joie. Et puis finalement, j'ai commencé alors au niveau de mon ministère, non seulement les accompagnements des jeunes, des Poincœurs, des missionnaires, des Poincœurs qui sont vraiment super. Et puis ensuite, j'étais aumônier, de prison, et ensuite l'évêque m'a demandé, après mon ordination, donc en 95, j'étais ordonné diacre là-bas en 94, et en 95 ici, j'étais aumônier de prison, après être visiteur, j'étais aumônier. Et ça a été vraiment une belle expérience, pas si facile. Je me rappelle les premiers jours, les premiers mois, voire... première année, j'arrivais avec la boule au ventre, autant avec les Poincœurs, j'avais pu connaître les bidonvilles, etc. Mais là, c'est différent. Comme aumônier, vous savez, c'est la même chose en France, vous faites partie du service pénitentiaire. Vous êtes appointé par le service pénitentiaire et vous faites partie du service pénitentiaire. Et donc, vous arrivez face aux prisonniers et du coup, certains vous considèrent voilà, comme un maton, entre guillemets. Tu viens ça pour ceci, tu viens... Et je me rappelle qu'au tout début, il y avait comme une sorte d'angoisse en moi. J'avais une boule au ventre. Rien que l'idée d'aller, c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de violence. Forcément, c'est des personnes, si elles sont là, elles ne sont pas complètement apaisées, comme vous l'imaginez. Et donc, du coup, il y a beaucoup de violence. Beaucoup de violence verbale, pas de violence physique, en tout cas envers moi. Et beaucoup de... Voilà, si tu fais ça pour l'argent. Et ben, le précédent aumônier, il était beaucoup mieux que toi que ça. Et du coup, je pense que j'ai fait tout un chemin intérieur. Et à un moment donné... Il y a comme un déclic. Je me dis, cette violence, elle n'est pas pour moi. Cette violence, elle n'est pas pour moi. Elle est, en fait, l'expression de toute cette violence que ces gens portent de vie. Moi, si ma vie était bousculée, mais ça n'a rien à voir avec des personnes qui ont vécu dans des bidonvilles, dans la promiscuité, dans l'insécurité. On voit le papa qui part, va et vient en prison, etc. Bon, c'est toute une réalité différente. Et du coup, ça m'a permis de prendre une distance par rapport à cette violence des prisonniers. Et du coup, j'y suis allé beaucoup plus... Et j'accueillais cette distance, cette violence. Je me rappelle un qui carrément éructait. Il éructait, mais hurlait dessus. Oui, c'est quand même pas évident quand vous dites, voilà, vous prenez votre voiture, bon, ben, je vais une après-midi, on va me faire que me hurler dessus, quoi. Bon, c'est pas spontané, quoi. Donc, bon, voilà, c'est passé, c'est une étape qui est passée, mais beaucoup de très beaux souvenirs de tout ce qui était autour de cette aumônerie de prison. Je pense à des universitaires qui venaient animer la messe le dimanche. Je pense à... On avait fait la Caritas, qui est l'équivalent du Secours catholique, hein, pour aussi... Justement, je dis, moi, je refuse de donner de l'argent. Je refuse absolument de donner de l'argent. Chaque fois, j'étais harcelé. Plus français. « Ah ben toi, tu viens de France, tu as de l'argent, etc. » Je refusais absolument de donner de l'argent. Et donc, du coup, je trouvais ça intéressant qu'il y ait aussi, d'une certaine manière, des personnes qui puissent là pour subvenir souvent aux besoins des familles. Combien de prisonniers mettaient de côté la nourriture pour donner aux familles lors des parloirs? Oui, donc c'est une réalité qui est assez difficile. Et donc, du coup, voilà, toute cette équipe, vraiment, ça a été... et puis, toute cette spiritualité qui a infusé tout ça, qui... et vraiment, ça m'a, comme prêtre, j'ai beaucoup apprécié. On me dit, mais est-ce que tu as eu des conversions? J'ai dit, non, j'ai pas eu de conversion. Hein. En revanche, j'ai un très bon souvenir, un souvenir très ému des baptêmes. J'ai baptisé à tour de bras. J'ai baptisé, mais à lance-incendie, tellement... Alors, autant je ne mariais pas, mais autant je baptisais. Et c'était un moment très beau. Dans le baptême, vous voyez, c'est des gens très, très pauvres, je veux dire, c'est... voilà, mais on fait baptiser les enfants, etc. Et du coup, il y a le parrain et la marraine. Mais le parrain, c'est vraiment un parrain. C'est-à-dire, il laisse la Kalachnikov à l'entrée, et puis il rentre après. Et quand dans la liturgie, le côté extraordinaire de la liturgie, et que vous vous rappelez au baptême de vos enfants ou au autre baptême, reçoit ce vêtement blanc. On avait parlé du vêtement, vous vous rappelez, dans la parabole, reçoit ce vêtement blanc, qu'avec l'aide de tes parents, parrain et marraine, tu puisses le garder immaculé jusque dans la vie éternelle. Et tu te retournes, tu regardes les parrains, la marraine, les parents complètement, la pauvre maman complètement à la masse. Je veux dire, tu te dis, mais oh Seigneur, mais il n'y a plus que la grâce de Dieu. Il n'y a plus que le baptême. Mais c'est vrai, il n'y a que le baptême. Et c'était bon. Et c'était vraiment une expérience. Après, j'ai pratiquement, je ne baptise plus ou très très peu maintenant. Bon. Et en revanche, je ne faisais pas de mariage parce que bon, j'estimais qu'il n'y avait peut-être pas le discernement suffisant, etc. Voilà, cette expérience en prison, cette expérience de contact aussi avec une paroisse, même si on n'était pas en paroisse, on n'avait pas de charge paroissiale, la communauté, mais on était très proche d'un petit village, Auroverdé, où il y avait une vraie attention, un accueil des personnes. Si vous voulez, ce que je trouve la grosse différence avec la France, c'est la bienveillance. Il y a une vraie bienveillance. En France, on a un côté un peu perfectionniste, point noir sur la page blanche, vous voyez. Donc, et du coup, alors que là-bas, il y a, bon, vous alignez deux mots d'espagnol, vous, pratiquement, vous êtes comme Cervantes, quoi. Vous êtes tellement, tellement il y a une bienveillance extraordinaire. Et du coup, ça a vraiment une très, très belle 10 ans d'expérience là-bas, une tranche de vie. Et mes premières années de sacerdoce, hein, donc très active, très apostolique, très bon. Donc la fondation de la congrégation, la responsabilité de la communauté. Bon, bon. Ensuite arrive donc en 2001, on a des chapitres. Donc on avait un chapitre en 2001. Moment difficile avec les points cœur et la congrégation. Qu'est-ce qui est point cœur, qu'est-ce qui est congrégation, etc. Des tensions assez fortes. Et puis moi, j'arrive d'Argentine avec mon pyjama, ma brosse à dents, etc. Bon, je dis, bon, on va y lire le chapitre. Et puis ensuite, je retournais là-bas. Moi, j'étais très bien. Puis patatras, élu supérieur général. Tu te dis, mais attendez, il y a un problème. Bon, et là, c'est vrai qu'on y... Vous me direz, la difficulté dans la vie religieuse, c'est qu'on ne fait pas campagne. Mais voilà, donc... Et du coup, vous vous dites, voilà, c'est super général. Bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et puis, voilà, du coup, il a fallu que je renonce à l'Argentine. C'était vraiment un déchirement. Je renonce à l'Argentine. Je renonce à tout ce que, 10 ans, vous avez construit des choses, en 10 ans, des amitiés. Et puis, arriver en France, donc après 10 ans d'expat, si j'ose dire, de missionnaire. Et bon. Il a fallu gérer la communauté, etc. Et j'ai repris contact avec cette prof de philosophie dont je vous ai parlé, qui, entre-temps, s'était beaucoup formée à la théologie du corps selon Jean-Paul II, à l'accompagnement des couples, etc. Et du coup, je me suis reformé, d'une certaine manière, à son école. Entre-temps, elle avait fait son engagement comme oblate à Solesmes, c'est-à-dire elle, dans une maison extérieure, mais elle vit de la spiritualité bénédictine. Et du coup, je suivais un certain nombre d'enseignements, voilà, ce qui ont vraiment beaucoup apporté, etc. Et progressivement, des couples qui sont arrivés. Est-ce que vous pouvez me préparer au mariage? Ceci, pourquoi pas? Bon, je ne savais pas. Alors, certains disent qu'entre le mariage et la prison, il y a quelque chose de semblable, mais toujours est-il que... Toujours est-il que c'est pas sous cet angle, c'est pas du tout le même public en tout cas. Personne ne me hurlait dessus, en tout cas jusqu'à présent. C'était plutôt un public très bien élevé, bien sous tout rapport, etc. Bon. Et donc, commencer comme ça, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Ça, ce qui me paraissait important, c'est d'être auprès des frères après avoir vécu des années un peu secouées. Et je trouve ce ministère-là, on reçoit ici des prédications de retraite ici, qui permet à la fois d'avoir une dimension apostolique et tout en étant présent. Moi, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça peut... Et puis, je voyais que ça marchait bien, que puis les uns, les autres, ils se repassaient le mot. Bon. Et puis voilà, donc 2001, ça a été une... Vous voyez, d'une certaine manière... je pense que c'est important. Mais dans vos vies, je suis sûr que c'est pareil. Dans vos vies, il y a des moments où on dit on suit un chemin, on est à la croisée des chemins. Vous voyez, vous rappelez l'évangile, on suit un chemin, on est à la croisée des chemins. Je traversais l'Atlantique, etc., supérieur de la congrégation. Et puis au niveau ministère, apostolique, bon, c'est ça qui se présente. Et puis progressivement, ça a été de plus en plus, présent dans ma vie et du coup prédication de retraite, etc. Bon, ça a vraiment été vraiment un, on peut dire, je sentais qu'il y avait une forme de quand vous sentez que vous êtes à la bonne place, vous voyez, vous êtes au bon endroit. Et du coup, j'avais un peu cette impression, j'ai dit, tiens, les couples, j'ai jamais vraiment pensé, mais bon, je vais aller les couples. Et puis progressivement, ça s'est monté, prédication de retraite, puis de plus en plus de couples, etc. Bon, et puis ensuite, dans 2014, j'ai eu cette intuition. C'est souvent comme ça, les intuitions. de créer une retraite de discernement. Parce que je me suis dit, en fait, pour couple, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Vous savez, bon, évidemment, il y a les fiançailles, mais il manque une étape. Je trouve que dès qu'on annonce le mariage, on rentre dans le toboggan, si vous voulez, et ensuite, c'est quand même très difficile de s'en sortir. Hein, on sait bien que rompre ses fiançailles, c'est très douloureux, etc. Surtout, c'était plutôt des jeunes issus de familles assez traditionnelles, si vous voulez. Et donc, je dis, il faut absolument leur donner une autre manière, une autre étape, si vous voulez, quelque chose en amont, en amont des fiançailles, qui puisse les aider. Du coup, m'est venue cette intuition. Et du coup, ça a commencé comme ça. En 2000, et grâce aussi, je remercie un certain nombre de couples accompagnateurs qui sont présents aussi, que je remercie chaleureusement. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça tout seul, parce que la première retraite, il y avait peut-être 35 couples, 40 couples. Je me suis dit, mais non, je ne vais pas accompagner, parce qu'il faut absolument accompagner des personnes comme ça. Vous pouvez pas, ça ne peut pas que de l'enseignement. Je ne peux pas accompagner quand ça n'a pas de sens, c'est même pas bon. Et donc, du coup, ça a été du coup des personnes qui sont venues à ma rescousse, etc., pour me m'aider, me soutenir, à accompagner, à écouter les couples. Et puis en 2015, il y a eu une période. Je me suis dit, il me manque. Si vous voulez, quand vous êtes au séminaire, vous faites pas. Vous étudiez le sacrement du mariage, mais vous n'avez pas du tout cette dimension de. Je veux dire, plus psychologique, plus rentrer un peu dans le détail aussi des tempéraments des uns et des autres. Vous n'avez pas d'outils pour ça. Et du coup, j'ai demandé à la communauté si je pouvais suivre une formation de thérapeute de couple. De thérapeute de couple, et donc ça a duré 4 ans. 4 ans, et je remercie la communauté. Et c'est là où je me dis, en général, je remercie beaucoup ma communauté parce que elle a fait l'homme que je suis et le prêtre que je suis aujourd'hui, si vous voulez. C'est grâce aussi à une communauté que l'on a. C'est pas une aventure personnelle. Aujourd'hui, je suis seul à parler parce que bon, c'est les 25 ans. Mais c'est une communauté aussi, et je pense que c'est important de rendre grâce, de dire on est accompagné, on est porté. J'imagine dans la vie matrimoniale, c'est pareil. On est porté par d'autres. Moi, c'est mes frères de communauté, ma famille aussi qui m'a porté. Voilà, donc soutenu, qui a bien, très bien accueilli, je me rappelle très bien, je ne pouvais pas dire, mais qui a très bien accueilli ma vocation. Je me rappelle très bien le jour, mon beau-père qui dit, sortons le champagne. Voilà, donc, tout le monde n'a pas cette... Beaucoup de frères, ça n'a pas été forcément bien accueilli pour X raisons. Moi, du coup, le fait d'être soutenu, ça à plusieurs étapes de clé de ma vie. Ça. Et donc, du coup, là, ces couples qui m'accompagnent, etc. Et puis ensuite, ça fait beaucoup d'intuition ensemble. Mais en fait, j'ai une autre intuition. Je me suis dit, tiens, je commençais à... Donc, c'était des jeunes professionnels, c'était des jeunes fiancés, etc. Du coup, je me suis dit, il y a ce monde-là des 25-35 ans qui sont dans la vie professionnelle, il faudrait faire quelque chose. Et du coup, je lance ce qu'on appelle le forum des jeunes professionnels qui a lieu à l'abbaye en 2013. Et du coup, ou 2012-2013. Et puis ensuite, beaucoup de jeunes de Compiègne sont venus. Je me suis dit, il faut absolument faire un groupe de jeunes pros. Et il y a un certain nombre de Compiègne qui sont là, de jeunes pros, et qui perdurent depuis. Et ça a été un moment assez intéressant d'écouter aussi ces intuitions, alors de les faire valider parce que c'est aussi dans le charisme de la congrégation. Si j'avais dit je vais faire le tour du monde en solitaire, je pense que ce n'aurait pas été possible. Vous voyez, donc, mais c'est dans le charisme de la congrégation, et du coup, c'est ces jeunes professionnels qui ont été créés. Et puis aussi, auparavant, il y a eu une très belle rencontre avec Margot, je ne sais pas si elle est encore là, mais et puis d'autres jeunes qui sont dans le domaine du vin. Et en 2008, j'ai eu l'intuition qu'il fallait... Pour des jeunes professionnels, je vois que... En fait, je pourrais faire la constatation que beaucoup de jeunes professionnels, entre guillemets, beaucoup... Un certain nombre de jeunes professionnels reprennent contact avec l'Église à l'occasion de leur vie en entreprise, leur vie de travail. Et je me dis, il faut quelque chose qui soit une marge qui soit pas trop élevée pour pouvoir leur permettre de revenir dans l'Église et refréquenter, alors qu'on le sait bien, la vie estudiantine, c'est plutôt une vie où on laisse tomber tout ce qu'on a appris auparavant. Et du coup, j'ai eu l'idée, un truc qui fait toujours sourire, avec Margot, avec d'autres jeunes, etc., de créer une association qui existe toujours, qui s'appelle SPSP, spirituel et spiritueux. C'est-à-dire qu'à la fois, on déguste... ça vous fait rire, Gilles. On déguste du vin, etc., et à la fois, on écoute la bonne parole et essayer de faire... Et du coup, ça marche à tel point qu'il y a une association qui s'est créée, il y a des jeunes qui... Et puis, régulièrement, à Paris, bon, j'y vais une fois sur deux, mais il y a à peu près 100, 150, parfois 200 jeunes dans les conférences. Donc, il y a quand même, ça veut dire, des jeunes qui vraiment reviennent, certains qui sont très enracinés, mais d'autres qui reviennent dans la vie de foi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, ce qui fait mon ministère, et je sens que c'est très présent, c'est l'accompagnement des couples, évidemment. J'ai eu la publication d'ouvrages, et là, il y a la réédition, la fin octobre, de mon premier ouvrage, « Se marier et durer ». Et je sens que, en fait, il n'y a pas vraiment de prêtre qui se dédie, qui se forme non plus pour cette question des couples, alors que pourquoi je me suis dit, c'est important, si on parle beaucoup du vivre ensemble, on parle beaucoup, etc., où est-ce qu'on apprend à vivre ensemble? C'est dans la famille, c'est là où on apprend à vivre ensemble. Donc de soutenir, en tout cas autant que faire se peut, ceux qui débutent dans leur vie de couple, ceux qui avancent dans leur vie de couple, de les soutenir et de les former. Et c'est vrai que bon an mal an, aujourd'hui j'accompagne entre 35, 40 couples par an, si vous voulez. Je fais plus que ça. Maintenant, il faut faire quelque chose dans la vie. Mais bon, moi, je fais plus que ça. Alors, comment est-ce que je vois les prochains 25 ans? Ça, c'est une question. Parce qu'on se retrouvera en 2045. Peut-être avant, mais en tout cas, le prochain jubilé, c'est 2040. Je me dis, qu'est-ce qui va venir devant? C'est vrai que, autant je me sens pas tellement le désir de reprendre des directions de communauté, comme prieur ou supérieur, etc. Ça a été à un moment donné de ma vie, etc., mais je ne pense pas que ce soit mon appel. Mais autant, je pense, cette question du couple, il y a quelque chose à approfondir. Et il y a à approfondir en particulier avec des livres. Alors, c'est ma chère maman qui n'a pas pu venir parce que, voilà, elle est fragile, etc., mais me disait, c'est vraiment curieux que ce soit toi qui te mettes au livre. Parce que comme nul en français, il n'y a pas mieux que moi à l'écrit. J'ai beaucoup de facilité à l'oral, mais je suis complètement nul à l'écrit. Je veux dire, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, je n'ai pas du tout de style, etc. Ce qui fait que les éditeurs s'arrachent les cheveux, etc. Bon. Donc, mais toujours est-il, je me suis dit, moi j'ai des choses à dire. Alors, il y a les conférences qui sont une manière de les dire. Mais les conférences ne touchent que ceux qui veulent bien écouter et sont présents. À travers le livre, il y a quelque chose qui se propage. Donc voilà, c'est à présent, c'est vraiment, je me dis, d'approfondir cette grâce qui m'a été donnée, si la communauté me l'autorise, hein, évidemment, hein, d'accompagner cette republication cette publication des ouvrages. Voilà, mes amis, un grand merci pour votre écoute. Voilà. Merci.